Et j'aime autant vous dire que ce n'est que le début. Car mes chers amis, mes chers parsékiens et chères parsékiennes, aujourd'hui je peux vous dire qu'on va moins rigoler. Enfin si, on va rigoler, mais on devrait pas. Parce que pour la première fois sur cette chaîne, nous allons parler d'un film d'horreur. Et pas n'importe quel film d'horreur. LE film d'horreur. Le plus grand, le plus ouf, le précurseur, le cultissime, L'Exorciste. Alors, personnellement, je surkiffe ce film. Si vous l'avez vu, ça vous a forcément marqué. Et si vous l'avez pas vu, alors, très honnêtement, ce serait dommage de le découvrir avec ma vidéo, parce que moi, je vais le ruiner comme c'est pas permis. Mais après tout,
pourquoi pas ?
Car aujourd'hui, on va apprendre ce qu'est un véritable exorcisme. Et en fait, c'est très très simple. Un exorcisme, c'est quand un prêtre demande à un démon de sortir du corps d'un enfant. Et un exorcisme inversé, c'est quand c'est le démon qui demande au prêtre de sortir de l'enfant. Alors attention, je m'adresse à toi. Toi qui me regarde bien tranquillement derrière ton écran, bien à l'abri. Prépare-toi, parce que tu auras peur. Oui, tu auras peur.
Je vous ai prévenu, vous aurez peur. Car je suis le faucon des ténèbres, maître des agneaux noirs tachés de crime et des agneaux blancs aveuglés. Je suis celui qui appellera une ère de ténèbres sur le monde.
Bon, les gars, je crois que cette pièce a l'air un petit peu possédée, là. Il y a une atmosphère bizarre. Et ça tombe bien, parce que cette vidéo est sponsorisée par Displate. Et Displate, c'est la meilleure arme pour se défendre avec style. Parce que pour protéger une pièce du malin, certains mettent une croix sur les murs. Et bah moi, je mets des Displate, ma gueule. Et ça marche hyper bien. Displate, ce sont des posters en métal, solides, efficaces, merveilleux. Avec une déco comme ça, toutes vos pièces seront protégées par la force. D'abord, on nettoie le mur de toutes les impuretés démoniaque, comme ceci. Ensuite, on colle une simple feuille, on colle un aimant magique et on fixe le displate. C'est tout.
C'est trop facile.
Oui, effectivement, c'est très facile.
Même quelqu'un de possédé par le démon peut y arriver.
Il y a des petits et des grands, et c'est fait pour les grands et les petits. Il y a autant de displates que de façons de mourir.
C'est-à-dire des millions.
Cinéma, série, musique, sport, jeux vidéo, nature, science-fiction, terreur, frisson. Regardez un peu celui-ci. Le pilier de la flamme contre la troisième lune supérieure, l'un des démons les plus puissants de Demon Slayer. Et regardez celui-ci, le combat de l'obscurité contre la lumière. Ah là, quand on évoque les mots stylé et badass, ils sont honorés par ce displate. Et encore, je vous parle même pas des versions Textra. Des displates avec un effet de 3D, de texture, on ressent les reliefs. Et ça, c'est beau. Et il est même désormais possible de personnaliser votre displate. Qu'est-ce qui se passe ? Y'a quelqu'un ?
Non, y'a personne.
J'ai eu peur. Il vous suffit d'aller sur leur site, d'importer une photo, displate l'analyse, et le tour est joué. Moi, j'ai fait un displate avec mon chat, Hadès, le maître des enfers. Parce que les chats peuvent sentir les démons et les vampires. Bon, lui, il sent plutôt les croquettes au saumon, mais je l'entraîne à sentir les croquettes aux démons. Avec mon code, à peu près, vous aurez 26% de réduction pour un displate, 31% de réduction pour deux displates, et 36% de réduction pour trois displates et plus. Si vous n'en profitez pas maintenant,
puisse Dieu avoir pitié de vous.
Et je remercie beaucoup Displate d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voudrais rendre un hommage à un sacré gars qui nous a quittés beaucoup, beaucoup trop tôt, il y a quelques jours, Bruno Salomon. J'hallucine, vraiment, j'ai beaucoup de mal à y croire, c'est comme très souvent quand quelqu'un part trop tôt, mais là, pour lui, vraiment, j'hallucine. C'est bien simple, j'adorais ce type. Je l'avais découvert comme beaucoup, bien sûr, grâce à Graines de Star, et ensuite avec la bande du Carré Blanc avec Jean Dujardin. J'adorais son humour, j'adorais ses personnages, sa façon de parler, son accent à la con. C'était le cochon d'Inde. Sa voix, en fait, juste sa voix, quand il disait la Jeep Renegade au Burger Quiz.
Avec un klaxon qui fait Renegade.
C'était l'un de mes personnages préférés dans Kaamelott avec son rôle de centurion Caius Camillus.
N'empêche que chez nous, on sait construire, quoi. Les aqueducs, c'est quand même un petit peu plus classe que vos murs en merde séchée.
Et surtout, il a marqué la chaîne 12 par sec de son empreinte, car le fameux
mystère.
Et bah, c'est de lui que ça vient, les gars.
Mystère.
Alors, mon cher Bruno, ton départ beaucoup trop soudain a été un choc. Et j'espère que tu continueras d'en faire marrer beaucoup là-haut, comme tu l'as si bien fait ici. Allez, à plus, Caius.
L'exorciste. Ouh là là, mon gars.
Alors, d'abord, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne ?
Bien sûr que non.
Eh ben voilà, super. Alors nous, on se casse le cul à faire des vidéos, à vous instruire, à vous divertir, et qu'est-ce qu'on a comme récompense ? Rien. Vous voulez regarder bien tranquillement et vous vous abonnez même pas, alors que ça vous prend juste un clic. Rah. Vous êtes vraiment des fils de pute.
Non,
je suis pas d'accord. Non, faut pas les traiter comme ça non plus. Non, franchement, voilà, si vous êtes pas abonné, bah abonnez-vous, hein, ça aide beaucoup la chaîne. Et voilà, ça nous fait plaisir, et ça vous fait plaisir aussi. Et ça vous fera plaisir beaucoup plus à vous qu'à nous. L'Exorciste, le film le plus terrifiant de tous les temps, à égalité avec Star Wars épisode 9. Non, sans déconner, L'Exorciste est considéré comme le film le plus terrifiant de tous les temps.
Il faut le dire vite.
C'est un film qui ne peut pas vous laisser indifférent. Si vous l'avez vu et que ça ne vous a rien fait, bah ça veut juste dire que vous êtes un putain d'androïde qui ne ressent rien et que vous êtes bon pour la casse. L'Exorciste est sorti en 1973 et encore aujourd'hui, 53 ans après, c'est toujours le plus gros succès de l'histoire de la Warner si on prend en compte l'inflation. C'est-à-dire que pour un budget d'environ 15 millions d'euros, il en a rapporté plus de 2 milliards.
Hein, tant que ça ?
Il a gagné plus de 133 fois ce qu'il a coûté. Il a gagné 2 Oscars, 4 Golden Globes et c'est le premier film d'horreur à avoir été nommé aux Oscars pour le meilleur film. Excusez du peu. Il a été réalisé par William Friedkin, alors c'est peut-être un nom qui dit pas grand-chose au grand public, mais les cinéphiles le connaissent très bien, puisqu'il a réalisé d'autres films quand même un peu connus, comme French Connection, qui a remporté quand même 5 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et surtout, alors moi je le connaissais, mais pour complètement autre chose, puisqu'il a réalisé un film qui s'appelle Blue Chips, un film de basket, les gars, avec Shaquille O'Neal et Nick Nolte. On en parle d'ailleurs dans la vidéo la tier list des films de basket à laquelle j'ai participé avec la First Team, la première chaîne de basket dans le YouTube Game français. Si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Alors c'est adapté du roman du même nom, L'Exorciste, de William Peter Blatty, sorti 2 ans avant. L'auteur s'est inspiré d'un véritable cas d'exorcisme aux États-Unis en 1949. Et il faut qu'on parle du casting, parce qu'il y a dans ce film d'excellents comédiens et comédiennes. Et je commencerai naturellement par citer la jeune Linda Blair, qui joue Regan McNeil, la petite fille qui va être possédée par un démon. Linda Blair n'a que 13 ans au moment du tournage, aujourd'hui elle en a 67. Elle est absolument incroyable. Je sais pas comment elle a fait pour être autant aussi intense, je veux dire, aussi réaliste dans son jeu. Elle a quand même que 12 ans, la petite. Elle est, mais littéralement, possédée. On retrouve aussi Helen Burstyn, qui joue sa mère, Chris McNeil. Helen Burstyn est une très grande actrice qui a joué dans 70 films. Elle a même eu l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Alice n'est plus ici de Martin Scorsese en 74, donc un an après L'Exorciste. Et en plus, comme par hasard, elle était même pas là pour venir récupérer son Oscar, cette conne. Non mais attends, les Oscars, c'est une fois par an, puis t'es pas nommé tout le temps en plus, donc je sais pas, t'es nommé pour la meilleure actrice, tu te prépares, quoi, tu te rends disponible. Je suis pas désolé, hein. Moi, Helen Burstyn, je l'avais découvert dans Requiem for a Dream, un sacré film choc, ça aussi. Et c'est également elle qui joue Murphy vieille à la fin d'Interstellar, là. Eh oui, elle est là, la vieille mémère.
Oh, bah alors.
Bah oui. On découvre aussi Jason Miller, qui joue le père Karras. Pas grand-chose à dire sur lui, si ce n'est que L'Exorciste est son premier rôle au cinéma. Lui, c'était plutôt un type de théâtre avant, mais il a accepté le rôle parce qu'il disait que c'est un personnage qui lui ressemblait énormément. Il avait un peu le même parcours. À noter également que c'est le père de l'acteur Jason Patrick.
Je ne savais pas.
Eh oui, bah écoute, maintenant tu le sais. Jason Patrick, on l'aime bien, voilà. Bon, il a fait quelques trucs cool. Moi, je l'ai bien aimé dans Sleepers. Et surtout, mes amis, on retrouve un très grand, un immense acteur qui nous a quitté en 2020, Max von Sydow, le type qui a juste joué dans plus de 150 films sur plus de 70 ans de carrière. Et ce n'est donc pas étonnant si c'est déjà la quatrième fois qu'on le voit sur la chaîne, puisqu'il jouera plus tard dans Judge Dredd, dans Minority Report, et aura aussi un rôle secondaire dans Conan le Barbare, trois films dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et encore, on aurait pu le voir une ou deux fois de plus parce qu'il a aussi joué dans Dune, mais celui de David Lynch dont j'aurais dû parler. Mais moi, j'ai préféré analyser les deux films de Denis Villeneuve. Et enfin, il a également un petit rôle ô combien important au tout début de Star Wars épisode 7. Mais, chose très étrange, me direz-vous, en 9 ans d'existence, je n'ai jamais parlé d'aucun film Star Wars sur la chaîne.
Bah si, t'as parlé de l'épisode 8, de l'épisode 9 et de Solo.
Oui, mais c'est ce que je dis. Je n'ai jamais parlé d'aucun vrai film Star Wars sur la chaîne. Et le truc complètement ouf avec Max von Sydow dans ce film, c'est que là, par exemple, quand vous le voyez, là, comme ça, à votre avis, il a quel âge ? Max von Sydow joue le père Lancaster Merrin, qui va être appelé pour venir faire l'exorcisme avec le père Karras. C'est un personnage usé, tu vois, par des décennies de combat contre le mal. Dans le film, il est au bout de sa vie, quoi. Il en peut plus, le bordel. Il est vraiment fragile physiquement, il est fatigué, il prend des médocs et tout. Alors que paradoxalement, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, et c'est d'ailleurs le seul personnage du film qui n'a pas peur du démon. Et là, bah, franchement, on dirait qu'il a bien entre 70 et même, il peut même taper dans les 80 balais, tu vois. Et pourtant, Max von Sydow est né en 1929. L'exorciste est sorti en 73. Faites le calcul. Il a donc 44 ans. C'est ouf, franchement, je trouve ça absolument génial d'avoir réussi à lui coller 30 piges dans la tronche comme ça sans que personne s'en aperçoive. C'est hyper crédible, quoi. Bon, après, voilà, hein, au final, c'est juste deux coups de maquillage. Lui, il respire difficilement et puis il marche lentement. Bon, voilà, mais n'empêche que si on vous le disait pas, bah, je suis pas sûr que vous le remarqueriez. Ce qui est d'ailleurs un petit peu le principe. Ce qui est génial aussi, bien sûr, c'est le thème musical. Et figurez-vous que moi, j'étais sur le cul quand j'ai appris que c'était pas du tout une musique qui avait été composée pour le film. C'est un morceau qui n'a rien à voir, histoire et qui existait déjà et que le réalisateur a simplement kiffé quand il a écouté. Ça s'appelle Tubular Bell de Mike Oldfield. Alors c'est un peu un truc expérimental, tu vois, et ça fait un peu électro. Ils l'ont réarrangé pour le film, tu vois, mais sinon c'est ça, quoi, et c'est cool. Alors, il faudrait aussi que je prenne du temps pour vous parler du tournage du film, parce que là aussi, il y a gavé de trucs à dire. Il faut que vous regardiez le making-of, parce que ce film a été appelé le tournage maudit. Je vous dirai juste une info qui pose les bases. Pendant le tournage, il y a eu 9 morts.
Hein, tant que ça ?
Alors, soit en lien direct avec le film, hein, ça peut être, il y a un acteur, il y a des techniciens, par exemple, t'avais notamment un gardien de garage qui gardait un entrepôt avec du matos, bah voilà, il est mort. Et il y a eu aussi des personnes en lien indirect, c'est-à-dire plutôt des membres de famille de différentes personnes du film. Max von Sydow, par exemple, il a perdu son frère pendant le tournage. Linda Blair, elle a perdu son grand-père. Et Jason Miller, il a failli perdre son fils dans un accident de moto. Le plateau a pris feu, des acteurs se sont blessés. Ellen Burstyn, elle a fait une chute de ouf pour les besoins d'une scène et elle s'est grave blessée le dos, elle a eu des séquelles toute sa vie. En plus, le réalisateur, c'était un bon gros enfoiré aussi sur le plateau. Il faisait des putains de crasses aux acteurs et aux actrices, tu vois, pour leur foutre les boules, les déstabiliser, quoi, pour qu'ils aient vraiment peur et qu'ils soient au bout de leur vie. Il y a même un moment donné, je crois, où il a carrément mis une gifle à un comédien pour que l'autre il soit choqué et puis il en pleure et puis le réalisateur, il dit action. Dans la chambre de Reagan où ils font l'exorcisme, ils avaient volontairement baissé la température pour qu'il fasse hyper froid, pour que les deux prêtres soient grave en galère. La condensation qui sort de leur bouche, c'est de la vraie. Enfin voilà, le tournage a été à l'image du film, vraiment éprouvant. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais voilà, vous trouverez plein de vidéos sur YouTube qui l'ont fait avant moi, si ça vous intéresse. À savoir aussi qu'il y a eu deux versions du film, l'original sorti en 73, et le Director's Cut sorti en 2000, avec quelques ajouts qui rendent le film encore plus flippant. Et c'est bien sûr de cette version-là dont on va parler aujourd'hui. Allez, on lance le film. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Putain, la lumière s'est éteinte.
Hein, mais t'as eu peur pour ça?
Attends, ça fait archi peur. J'ai failli avoir une crise cardiaque.
Mais donc, si t'as peur pour ça, tu peux arrêter le film tout de suite, hein.
Ouais, bah t'as raison, tiens. Ouais, ouais. Bon, on va changer, non, on arrête. Mais autre chose. C'est mieux, ça fait moins peur. Pourquoi on entend Allahu Akbar? C'est quoi le rapport?
Aucune idée.
Attends, comme par hasard, il y a un truc d'exorcisme avec le diable et tout, et on entend Allahu Akbar. Well, well, well.
Well, well, well. Well, well, well.
Bon allez, on reprend. Ah, là on est bien chez le rebeu. Alors, nous voici donc en Irak. Merveilleux pays s'il n'en fut. Pays de Babylone et ses jardins suspendus. En un mot, capitale du roi Nebuchadnezzar II. Pays de Bagdad, pays de la Mésopotamie. Et tout ça, on s'en tamponne l'oignon. Parce que là, on fait des fouilles. Ça fouille de partout.
Il cherche quoi là?
Bah alors apparemment, ce serait un milliardaire juif qui a fait tomber une pièce de 20 centimes dans le coin. Et il sait plus où elle est, donc il a engagé plein de gens pour la retrouver. Ah bah attendez, moi je comprends. Y a pas de petites économies, hein. Et là, il y a un type qui a trouvé quelque chose. Une petite statuette d'un truc qui a une vieille gueule toute pourrie, là. Tiens, 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 tiens.
Qu'est-ce que ça peut bien être?
Alors, j'avoue que ça, on sait pas.
Mais si on le sait?
Mais bien sûr qu'on le sait, évidemment. C'est une statue du démon Pouzaza.
Pas Zouzou.
Le célèbre démon qui n'est pas célèbre du tout. Bah, vous le connaissez, vous? Mis à part dans ce film, vous avez déjà entendu parler de lui?
Pas du tout.
Moi, pas du tout. J'y écoute pas bidon. Et on retrouve ensuite notre ami le chercheur en terrasse d'un café. Il se boit une petite pintade en terrasse. Enfin, plutôt un petit thé, hein. Et donc, il a pas l'air au mieux de sa forme, hein. Le vieillard de 44 ans. Putain, la vache, si dans 2 ans je suis comme ça, ça fout les boules. Oui, j'ai 42 ans, oui. Bon, bah voilà. Ça se voit pas du tout, hein. J'en fais 23, 24 maximum, hein. Bon, le daron, il dit à son collègue qui doit rentrer chez lui. Et là, on va le voir marcher dans les rues de Marrakech.
Marrakech, on est en Irak.
Oui, bon, bah, le Caire, alors.
Oh, n'importe quoi, le Caire, c'est en Algérie.
Ah, putain. Le Caire en Algérie, non, mais vraiment, mais... Ah, vous êtes vraiment bidon en géographie, vous. Bande de dégueulasses. Vous serez jugé pour ça. Et là, il arrive sur un autre site archéologique. Et attention, il se passe quelque chose. Il revoit une autre statue de Zazapou.
Pas Zouzou.
Et là, il se passe des trucs. Là, il y a comme de la tension dans l'air. Il y a un vieux qui le regarde. C'est mystérieux. C'est mystérieux, les gars, je vous dis.
Oh putain, j'ai
peur. Il y a du mystère. Et attention, il y a des chiens qui se battent. Attention, ça fait peur. Et là, il y a le soleil qui se couche. Attention, les gars, il y a le soleil qui se couche. C'est hyper dangereux. Ah, mais dans ce film, faut faire vachement gaffe. Il peut se passer des trucs de ouf à n'importe quel moment. Et nous voilà maintenant à Washington, D.C. D.C. pour... Ça veut dire quoi, déjà, D.C.
Nique ta mère.
Non, n'importe quoi, pas du tout, ça veut pas dire ça.
Si, si, ça veut dire nique ta mère, hein, je crois.
Sérieux, ça veut dire ça?
Oui, c'est ça, complètement.
Peut-être. Et là, on découvre une dame qui écrit avec un stylo sur une feuille. Non mais ça va.
C'est bon, c'est rien ça.
Là, on peut pas avoir peur de n'importe quoi tout le temps, sinon ça va être long. Ça gérerait d'être un peu courageux quand même.
Ah,
La dame entend des bruits, ça vient du grenier, les gars. Ça fait peur. Ça fait peur, le grenier.
Elle vérifie dans la chambre, sa fille dort tranquillement. Bon, déjà, c'est pas la gamine qui est réveillée et qui fait chier, ce qui est quand même bien souvent le cas avec les gamins de cet âge-là la nuit. Et le lendemain, elle dit aux gens qui bossent pour elle, parce qu'apparemment, elle a des gens qui bossent pour elle.
Oh, Carl, on a des rats au grenier, pensez à mettre des pièges.
Voilà, donc pour elle, ce sont des rats. Bah, en même temps, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Après, les bruits étaient quand même assez chelous, hein. Ils étaient forts déjà, puis ils étaient secs. Alors, peut-être que ce sont des rats qui font les travaux, tu vois, je sais pas, ou des jeux. Si ça se trouve, ils jouent au chamboule tout.
Toi,
il se marre, quoi. Non, mais c'est possible, hein.
Bah, c'est même sûr, hein.
Bon, Carl, lui, les rats, il y croit pas du tout, mais bon, il s'exécute. Et là, dans la scène d'après, on découvre que la petite dame, eh ben, c'est une actrice. Et oui, truc de ouf. Et voilà, on voit le réalisateur qui parle à un monsieur, là. Tiens, bah, lui, justement, c'est William Peter Blatty, celui qui a écrit le roman, là. Et là, elle tourne une grosse scène, il y a plein de figurants. On dirait des étudiants ou je sais pas quoi. Ça a l'air d'être une manifestation, donc, c'est forcément des étudiants. Et là, attention, action les caméras.
Et donc, j'ai une question, là. À quelle heure est-ce que vous fermez vos gueules? Vous avez fini de nous emmerder, là, vous êtes pas au-dessus de la foot? Alors, retournez bosser maintenant, bande de guignols, je défonce tous.
Ah oui, elle est vénère, là. Bon, après, c'est un rôle, hein, bien sûr, hein. Et là, dans la foule, la caméra s'intéresse à un monsieur, un homme d'église, qui regarde la scène et qui rentre chez lui. Bon, écoutez, on ne sait pas qui c'est.
Mais si on sait.
Non, on sait pas encore qui c'est, non. Tout ce qu'on sait, c'est que...
Ce personnage est important.
Et là, on repasse sur Madame McNeil, qui rentre chez elle. Et là, les copains, le thème musical arrive. Et avec lui, les premiers frissons. La scène dure à peine quelques secondes, mais elle est déjà terriblement efficace. On nous met déjà la pression, là. On a l'impression que le mal peut surgir, que le mal va surgir. On sait pas pourquoi, mais on ressent déjà une sorte de présence invisible. C'est comme si quelque chose s'était déjà installé avant même que l'histoire du film ne commence vraiment. On sent qu'il y a un truc qui cloche, mais on sait pas quoi.
Mais si on le sait.
Mais ta gueule, toi! On le sait parce qu'on connaît le film. Mais je veux dire, techniquement, à ce moment-là dans l'histoire, on le sait pas. On en sait rien. Donc ferme-la, putain. Chris arrive chez elle, et on découvre donc sa fille Regan, 12 ans, très gentille. Très mignonne, très douce, très pure.
Elle est belle, elle sent très bon.
Souriante, sympa, la jeune fille adorable. On voit immédiatement qu'elles ont une super relation mère-fille, qu'elles s'aiment plus que tout. Et rien que ça, ça fait déjà plaisir. Et là, Regan lui raconte ce qu'elle a fait aujourd'hui, et elle lui parle d'un type qu'elle a rencontré en faisant un pique-nique avec sa nounou.
C'était quoi ?
Qu'est-ce qu'il était beau !
Ah, un beau monsieur.
Le type, il m'a laissé monter dessus, c'était super.
C'est vrai ?
C'est vrai, elle l'a monté presque
une demi-heure. C'était génial, j'ai adoré.
Ah... Elle parle de quoi exactement, là ?
Elle parle d'un cheval, il y a un monsieur qui l'a laissé monter dessus.
Ok, d'accord. Enfin voilà, elles s'adorent, elles jouent ensemble. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Quand on sait ce qui va se passer après, parce que pour le moment, on ne sait rien.
Mais si on sait...
La gueule !
On retrouve le prêtre, le père Carras, qui va rendre visite à sa mère qui est âgée, fatiguée. Il va lui dire qu'elle pourrait aller en maison de retraite, mais elle, bien évidemment, comme tous les vieux butés, là, elle va pas vouloir y aller en disant qu'elle veut pas bouger de chez elle.
Ah, les vieux aujourd'hui, c'est terrible.
Ah non, mais l'égoïste, celle-là aussi, sérieux. Oui, égoïste, parfaitement. Bah oui, parce que ça force son fils à prendre de son temps pour venir s'occuper d'elle. Il a peut-être pas que ça foute non plus, hein. Il a un boulot, hein, il est prêtre, il doit aller évangéliser des gens. Ouais, bah n'empêche que ça, il s'agirait de pas l'oublier. Hein. À la nouvelle scène entre Chris et Regan, on apprend quelques petits trucs, on comprend que le père s'est barré. Regan dit à sa mère qu'elle sait qu'elle un nouveau mec. Pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Rien de bien intéressant. On aurait presque hâte que ça commence vraiment, hein, le pas zizi.
Pas zouzou.
Oui, bah alors. Mais qu'est-ce qu'il fout, il est où, là? Je dois dire qu'il se fait un petit peu t'atteindre. On retrouve le père Carras qui dit à son collègue qu'il veut quitter son taf parce qu'il n'y croit plus.
Je crois que j'ai perdu la foi, Tom.
Eh oui, et ça c'est quand même une phrase un peu de ouf. Un curé qui perd la foi, mais alors là, il a vraiment dû se passer quelque chose de dingue. Comme par exemple dans Sing de M. Night Shyamalan, hein, film dont j'ai déjà parlé dans ce qui est peut-être la meilleure vidéo de la chaîne, où Mel Gibson joue un pasteur qui a perdu la foi suite au décès accidentel de sa femme, tué par le réalisateur Shyamalan lui-même. Et d'ailleurs, pour plus de réalisme, ils avaient vraiment tué 43 femmes. Ah non, mais Shyamalan, c'est un réalisateur qui fait beaucoup de prises. Ouais. Alors bon, écoutez, moi, j'y connais pas grand-chose, hein. Mais bon, j'ai l'air perdre la foi pour un truc aussi bénin, excuse-moi, c'est un peu n'importe quoi. Et alors à la fois, soit tu l'as pas. Il n'y a pas de... Hein ? Bon. Retour chez les McNeil, c'est la nuit. Et Chris se réveille et voit que Regan est venue dormir dans son lit. Et quand elle va lui demander pourquoi elle est là, Regan va lui répondre quelque chose de très étrange.
Il y a mon lit qui saute. Alors, j'arrive pas à dormir.
Il y a mon lit qui saute.
Ah !
Quoi ?
Bah, je sais pas. J'ai un peu peur, mais pas trop.
Ah oui, oui. Oui, moi je comprends. Hein. Bah, c'est quand même pas anodin. Bon, sa mère, évidemment, pense qu'elle raconte un peu n'importe quoi, ce qui est très certainement le cas, vu qu'elle a 12 ans et qu'à cet âge-là, tu dis principalement de la merde. Ah bah moi, mon fils, il a 11 ans, je crois pas qu'il ait dit un seul truc intelligent depuis qu'il est né.
T'as le père, t'es le fils.
Non, chut. Hé, hey, papa travaille. Alors, va me chercher une bière, tiens.
Je peux en prendre une aussi.
Oh, bravo, super. Oh.
Bien sûr. Bon, Chris, elle entend à nouveau du bruit dans le grenier, et cette fois, elle décide d'aller voir. Elle va prendre son courage à deux mains. Enfin, à une seule main, puisque dans l'autre, elle tient une bougie. Et là, comme par
par hasard.
Attendez, j'ai rien dit là.
Ah pardon.
Laisse-moi parler.
La lumière ne marche plus dans le grenier. Voilà donc un autre mystère. Elle monte au grenier, elle avance lentement, et soudain, il se passe rien. Il se passe rien, il n'y a rien du tout, et voilà, c'est comme d'habitude. Il n'y avait rien du tout, voilà, mais c'est toujours pareil. Je crois qu'il va se passer un truc, et puis en fait, non.
Il n'y a rien.
Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce vieux con? Attends, il était là comme par hasard, au moment où la bougie s'est enflammée. Ah, attends, si ça se trouve, il est peut-être pour quelque chose, hein. C'est peut-être lui, le tueur.
Le tueur?
Oui, enfin, le monstre, quoi.
Hein? Mais quoi? Mais quel monstre?
Enfin, le diable, c'est lui le diable.
Mais n'importe quoi. C'est pas du tout.
Non, mais c'est bon, je sais pas, moi, j'essaie de dire les trucs mystérieux, c'est tout.
Ouais, bah, tes trucs mystérieux, tu peux te les foutre dans le cul.
Oh là là.
Ah, si, vous voyez? Vous voyez ce que je dois endurer au quotidien? Quand je pense que c'est moi qui leur écris leur texte. Alors là, on voit un prêtre qui installe des fleurs dans une église. Certainement pour cacher des preuves, quand soudain...
Oh mon Dieu.
Ah, il y a des petits malins, là. Des artistes en herbe. Bon, c'est quand même d'un assez mauvais goût, hein, je crois qu'on peut le dire. On dirait une sculpture de l'artiste Damien Hirst. Vous regarderez ce qu'il fait, lui, c'est marrant. Et là, on retrouve Regan qui fait des tests chez le docteur. Tiens donc, écoutez, sa mère a pris les devants. Elle a remarqué que sa fille commençait un peu à yoyoter de la touffe. Enfin, je veux dire...
De la touffe.
Oui, non, mais
bizarre,
c'est
chelou.
Non, mais c'est, je veux dire, elle commence un petit peu à délirer, quoi. Ah bah, le coup du lit qui saute, c'est quand même bizarre. Hein. Et là, il y a un autre truc très bizarre. Il se passe ça. Eh oui, ça c'est quand même un petit peu chelou aussi. Et ensuite, quand le docteur lui demande si elle sent quelque chose...
Mets ça dans la bouche. Attends maintenant. C'est un indicateur de température.
Ah, encore une fois, j'ai eu peur. Hein. Attends, c'est chaud de pas faire trop de vannes un peu trop border, là. Et donc, il lui prend sa température, mais là...
J'en ai pas envie.
Ouais, mais dis donc, elle s'énerve, la jeune fille, là. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est bizarre, ça lui ressemble pas. D'habitude, elle est très gentille. Il y a quelque chose qui a changé. Heureusement, le docteur se veut rassurant et dit à Chris que c'est qu'une crise passagère. Vous lui filez du Valium 6 fois par jour, 100 mg par prise, vous le mettez dans le Nesquik, ça passe tout seul. Voilà, ça au moins, c'est un bon conseil de médecin. On peut toujours leur faire confiance. Surtout dans les années 70. Bon, par contre, là, le docteur, il va lui parler d'autre chose. Il va dire à Chris que sa fille s'est montrée particulièrement vulgaire et même obscène pendant la consultation. Mais obscène, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'elle a dit des trucs qui sont clairement pas de son âge, quoi. Mais pas de son âge, comment vous voulez dire?
Votre fille m'a dit de ne pas fourrer mes doigts dans son putain de con.
Ah oui, oui, effectivement, ça c'est pas terrible. C'est même très bizarre. Sa mère hallucine, elle est hyper choquée. Ah, regardez l'autre l'enfoiré, là, il se marre un peu, quoi. Hey, ça le fait marrer, ça. Ah, il trouve ça marrant. Et c'est vrai que quelque part, c'est un peu marrant quand même. Pas trop non plus, voilà. Juste un petit peu. En tout cas, le docteur, elle lui dit que tout va bien pour pas qu'elle s'inquiète. Et là, le soir, il y a une petite chouille à la maison. C'est la fin du tournage, tout le monde se retrouve dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Tout se passe à merveille. On a bien évidemment le tonton qui a bu un petit verre de trop et qui se lâche un peu.
Sale fumier de nazi.
Eh oui, mais il est toujours là, celui-là. Et on n'arrive jamais à s'en débarrasser. Et là, on apprend au détour d'une conversation que le père Carras, eh ben ça y est, il vient malheureusement de perdre sa mère.
C'est drôle.
Eh oui, coup dur chez les mous. Là, ça va pas arranger sa situation de recherche de la foi. Là, il a tous les malheurs qui lui arrivent à la fois.
Enfoiré de boche.
Oh, mais il peut pas se la fermer, lui. Mais retirez-lui son verre, celui-là.
Ouais, mais c'est le réalisateur, on peut rien dire.
Et alors, hein, s'il est trop relou, faut le calmer, là. Mais attends, ils se prennent pour qui, ces réalisateurs, là? Allez, virez-moi ça, là. Foutez-le dehors, ce vieux déchet. Sérieux, je vous jure, hein, on dirait PH à son mariage. En plus, lui, il s'appelle Burke. Ah, il porte bien son nom, celui-là. Bon, allez, la chouille peut continuer. Allez, DJ, là, fais péter le son, là. Note pour plus tard, ne jamais laisser un curé gérer la musique pendant une soirée. Alors là, c'est le meilleur moyen de faire partir tout le monde. Bon, en même temps, après, tout le monde a l'air de bien se marrer. Qu'est-ce qu'ils chantent d'ailleurs, là, exactement?
Et vive les gros nichons, les pères de saints, comme des ballons, en pomme, en poire.
En fait, ça dépend quel curé, il y en a qui sont sympas quand même. Et là, Regan, qui a entendu sa chanson préférée, se joint à la fête, et elle va y aller aussi de sa petite boutade.
Vous allez mourir là-haut.
Bah, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Faut faire ça dans la litière, pas sur le tapis. Excusez-la, c'est parce que j'ai oublié de changer la litière. C'est pas grave, je le fais aussi. Du coup, elle fait sur le tapis. T'es chiante, hein, faut faire dans la litière, je te dis. Et ouais, mais ça, les jeunes qui pissent partout sur le tapis, ça c'est le risque. Faut leur apprendre la propreté le plus vite possible, parce que sinon ils pissent partout, et puis alors, hein, pour nettoyer après, bonjour. T'as intérêt de vaporiser avec 10 litres de Febreze. Et le soir, dans son lit...
Maman, qu'est-ce que j'ai?
Et mine de rien, cette phrase est assez importante parce que là, on voit que Regan sait qu'il se passe quelque chose et qu'elle est en train de changer. Elle en est consciente et ça, c'est bien.
Pourquoi?
Je sais pas.
Qu'est-ce que ça change?
Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais ça, en tout cas, ça rassure sa mère, hein, qui se dit que ça va aller et que c'est juste passager. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Le curé est venu dans sa chambre pendant qu'elle dormait?
Oh là là là.
Non, je sais pas.
J'en sais rien, je pose la question. On ne peut pas poser la question.
Chris ouvre la porte et découvre avec horreur que le lit est en train de bouger tout seul. Mais c'est complètement fou, qu'est-ce qui se passe? Eragon qui reste dessus et qui a peur, la pauvre petite.
Bah, je sais pas, au pire, tu peux peut-être descendre du lit. Tu roules sur le côté, ça te prend 2 secondes, tu vois. Ça a pas l'air insurmontable.
Mais non, la gamine, elle a peur, mais elle reste bien sur le lit. Elle a vraiment rien dans le crâne, ça. Et sa mère qui se jette sur le lit pour l'arrêter, mais ça continue, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, soit ça veut dire qu'il y a des puces de lit hyper vénères qui font une méga chouille sous coke et sous acide, soit ça veut dire que Eragon ne mentait pas tout à l'heure quand elle a dit que son lit sautait.
Bizarre comme si bizarre.
Et puis alors, faut pas compter sur les médecins pour trouver la solution. Hein. Parce que l'autre là, écoutez un peu ce qu'il va dire à Chris pour expliquer le fait que le lit bouge tout seul.
Le lit qui saute, c'est certainement dû à des spasmes musculaires.
Bien sûr, tout à fait. Ce sont des spasmes musculaires qui ont fait sauter le lit tout seul. Qu'est-ce qu'on fait? On lui casse la gueule maintenant ou tout de suite? Non mais sérieux, quand on sait pas, on ferme sa gueule. Hein. Ça vous évitera de balancer des énormités sous couvert de la médecine. Ah, les années 70, je te jure. Heureusement que ça a bien changé maintenant. Hein. Heureusement.
Du coup, ils refont des examens encore plus poussés à Eragon. On sait pas trop ce qu'ils cherchent, mais de toute façon, ils vont pas trouver. Surtout que le lendemain, la situation va empirer et pour nous, les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Les docteurs reçoivent un coup de fil, c'est urgent, il faut qu'ils viennent voir Eragon tout de suite parce que cette fois, elle a vraiment des très gros spasmes musculaires.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Maman! Maman, arrête!
Absolument, lui.
Tiens, dans ta gueule, toi!
Et ça, c'est un spasme musculaire aussi?
Alors?
Et là, Eragon va enfin leur parler de sa voix douce et enfantine.
La truie est à moi! Baise-moi! Baise-moi!
Quoi?
Oh. Baise-moi!
Bah écoutez, puisque c'est demandé si gentiment.
Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est vraiment un truc de fou, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que cette voix horrible tout à coup? Pourquoi il y a des trucs comme ça? Mais c'est un truc de taré là. Là c'est plus elle, là il se passe quelque chose.
Allez, les médecins lui font une piqûre, Chris sort en hurlant de peur et de douleur.
Bon, bah écoutez, c'était somme toute un petit moment assez sympa, hein. C'est à refaire, hein.
Ouais,
ça monte tranquillement en intensité, là. N'empêche, attendez, vous imaginez un peu, vous, si votre gamin de 11 ans, il se mettait à dire des trucs comme ça? Non, arrête, c'est pas marrant, là.
Chris pique une crise devant les médecins, qui n'osent pas trop lui dire que là, ils sont un peu guélards. Hein. Ils vont refaire d'autres tests encore plus vénères, mais ça va toujours rien donner. Et là, il y a un docteur qui dit enfin quelque chose d'intelligent.
Je crois qu'il va falloir appeler un psychiatre à notre secours.
Eh ben quand même, c'est pas trop tôt. Bon, en fait, qu'elle se fasse aider par un psychiatre ou pas, ce sera pareil. Mais bon, c'est quand même bien de proposer. Chris rentre chez elle, et à partir de là, on va commencer un peu à monter les curseurs de l'horreur et de l'angoisse. Attention, vous avez des petits, là, hein? Il va falloir les emmener se coucher, parce que là, il va falloir mettre des bibes, Jean-Pierre. Hein. Putain, celui qui l'a, celle-là, c'est un grand malade. Chris est dans le noir, la lumière est coupée. Qu'est-ce que c'était, là? On a vu quelque chose, là? Ah oui, oui, on a vu quelque chose de bizarre là, oui.
C'était quoi?
Ah je sais pas, non, je sais pas. Remets une dernière fois l'extrait, juste pour voir, arrête-toi bien sur le truc.
Oh, ou quoi?
Ah, comment je vous ai tous niqué là. Je voulais tous une bonne grosse mandale dans l'épaule.
Et vous avez tous fait avoir, montez pas.
Je vous la filerai à la prochaine convention. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oula, encore un monstre, et ça commence à puer là. Vous pouvez remettre vite fait là pour qu'on voit là?
Non, non, tu vas refaire une connerie encore là, c'est du tout.
C'est pour voir le monstre.
Non, tu vas remettre une connerie, c'est sûr.
Je vais rien faire, je vous jure, c'est pour voir le monstre là, je crois que c'était justement plus zizi là.
Pas Zouzou.
Remets-le justement, voilà, on va voir qui c'est.
Tu jures que tu fais pas de conneries?
Je vous jure que je vais rien faire, faites-moi confiance.
Bon bah vas-y. Oh. Putain, ça va, sérieux.
C'est moi le meilleur. Eragon est en train de dormir, Chris redescend. Il y a un type qui arrive pour annoncer une bien mauvaise nouvelle. Burke, le réalisateur du film, celui qui traitait tout le monde de nazi tout à l'heure là, eh ben il a été retrouvé mort.
Il avait dû picoler, il est tombé du haut des escaliers dehors devant chez toi. En arrivant en bas dans la rue, il s'est fracassé le crâne.
Oh non!
Et si, truc de ouf, mais c'est terrible.
Bon, écoutez, là, je crois que c'est vraiment trop, là. On va essayer de se calmer un petit peu, on va calmer le jeu, on va essayer de positiver un peu, là.
Au moins, Eragon va bien, hein, c'est le plus important, et ça va sûrement aller mieux.
Truc de malade mental!
Là, ça commence à devenir intéressant, là. On vient de franchir un nouveau cap dans l'horreur.
Alors, à noter que c'est quand même pas la façon la plus pratique de descendre des escaliers, hein. C'est sympa, hein. Faut reconnaître que ça a du style, hein.
Et surtout, c'est quand même l'une des scènes les plus traumatisantes du film. Je me souviendrai toujours, la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu un frisson dans le dos. Et pourtant, cette scène n'était pas dans la version originale de 73. Les gens ne l'ont pas vue quand ils ont découvert le film au cinéma. Alors, en fait, ils avaient vraiment tourné cette scène pour la version de 73, c'était prévu de la mettre. Il avait fait ça avec une cascadeuse
qui s'appelait Anne Mice. Elle était attachée à un harnais qui supportait son poids, mais la nana, en fait, c'était une gymnaste, elle était hyper balèze. Apparemment, j'ai même lu que limite, elle avait même pas besoin du harnais pour y arriver, quoi. Elle arrivait littéralement à faire ça comme ça toute seule. C'est quand même un peu dingue. Et elle était même pas possédée. Sauf qu'au dernier moment, Friedkin aurait décidé de couper la scène parce qu'il trouvait que ça arrivait trop tôt dans le film. Et aussi, et surtout, à l'époque, au niveau des effets spéciaux, ils ont pas réussi à effacer tous les câbles du harnais. Et donc, ils pouvaient pas laisser le plan comme ça avec des câbles que tu voyais à l'écran, quoi. Et c'est donc pour la version Director's Cut en 2000 qu'ils ont remis le plan en le retravaillant et en effaçant les câbles. Et ce qui est ouf, c'est que c'est aujourd'hui une des scènes les plus connues du film et même l'un des trucs les plus cultes de tout le cinéma de toute l'histoire du cinéma d'horreur, alors que personne n'a vu cette scène pendant 27 ans. Comme quoi, il y a des rajouts des fois dans les Director's Cut qui prennent vraiment tout leur sens. Ah là, ils ont compris qu'elle était possédée par quelque chose et ils vont enfin lui poser les bonnes questions.
Y a-t-il quelqu'un en toi ?
Oui, par moment.
Je vais parler à la personne qui est en Regan maintenant. Qui es-tu ?
Ah ! Eh oui, le diable prend les choses en main ! Il faut faire hyper gaffe, là. Il y a un moment d'inattention et hop, il nous chope par les boules. Bon, en tout cas, maintenant, on en est certain, Regan est possédé. Pendant ce temps-là, on fait la connaissance d'un inspecteur qui enquête sur la mort de Burke, le réalisateur, là. Vous savez, celui qui est tombé dans les escaliers qui sont juste en dessous de la maison des McNeil. Ces escaliers-là, hein, ils sont hyper longs. Hein. Ce sont de vrais escaliers, hein, bien sûr, évidemment, qui sont dans le quartier de Georgetown à Washington. Et ils sont naturellement surnommés les Exorcist Steps. Et l'inspecteur va voir le père Carras, qui est aussi psychiatre, pour lui poser quelques questions.
Mon père, jusqu'où s'étend votre savoir sur la sorcellerie?
J'ai lu la Bible, le Coran et la Torah. Ah, c'est bien, c'est une bonne base. Et oui, parce qu'en fait, il y a un truc que la police n'a révélé à personne. C'est que quand ils ont trouvé Burke en bas des escaliers, il avait la tête complètement retournée à 180 degrés. Et c'est quand même assez difficile à croire qu'il se soit fait ça dans la chute. Un inspecteur se dit que c'est peut-être un malade mental, tu vois, le même qui aurait profané la statue de Marie dans l'église, qui aurait tué Burke. Et le père Carras, ancien psychiatre, est la personne parfaite pour s'occuper du dossier.
Ce genre de maladie, c'est votre rayon.
Sauf qu'évidemment, Carras ne veut pas parce qu'il est en plein deuil de sa mère, il a beaucoup de mal à en sortir. Putain, c'est chiant, allez. Il pourrait accepter tout de suite, quoi. C'est bon, sa mère est morte, voilà, il faut qu'il passe à autre chose. Ah non, mais sérieux, quoi.
Mais quel connard, ce type.
Bon, là, tous les médecins disent à Chris qu'ils ne savent pas quoi faire et qu'au point d'en est, là, il n'y a plus qu'une seule solution. Faut la couler dans du béton, hein. Moi, je vois plus que ça. Hein. Ou dans de l'acide. Ça marche bien, l'acide. Hein. Nous, on l'utilise des fois quand on ne sait plus quoi faire. Et oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais l'acide, au moins, c'est radical. Ah bah, demandez à Walter White et Jesse Pinkman, ils vous diront comment faut faire. Hein. Et là, il y a un docteur qui va poser la question.
Savez-vous ce qu'est un exorcisme?
Un exorcisme, ça y est, le mot est là. C'est le dernier recours. Au grand mot, les grands remèdes. Pendant ce temps-là, l'inspecteur, il inspecte en faisant une inspection. Et là, au pied de l'escalier où est mort le réalisateur bourré, il trouve une sorte de petite sculpture en terre cuite, là. Bizarre. Étrange.
Mystère.
Il remonte l'escalier et c'est vrai que c'est directement sous la chambre de Regan. Et quand il va voir Chris pour lui poser quelques questions, il lui dit qu'en raison des blessures constatées sur le corps de Burke, il est probable
que le défunt ait été tué et ensuite poussé par la fenêtre de votre fille. Comme personne n'était dans la chambre, excepté votre fille, ça ne s'explique pas.
Alors en fait, si, ça s'explique très bien, hein. Tout le monde a déjà compris. En plus, il retrouve le même type de petite sculpture qu'il a trouvée au pied de l'escalier dans la maison, et il comprend tout de suite, et tout le monde comprend également, que c'est très certainement Regan qui l'a tué. Et quand l'inspecteur s'en va, Chris le comprend aussi. Sa propre fille, sa charmante petite Regan, est une meurtrière.
Et ça, ça fait mal.
Et là, c'est parti. Le diable s'habille à nouveau en Regan et lui fait faire des trucs de ouf.
Laisse Jésus te baiser. Laisse Jésus te baiser.
Alors, c'est vrai que c'est avec ce type de phrase qu'on voit que le diable est quand même quelqu'un d'un petit peu taquin. Il est joueur, hein, il aime bien titiller un peu, en blasphémant, hein, et en provoquant volontairement de manière très choquante. Alors personnellement, c'est vrai que c'est un humour dont je pourrais être assez fan, mais bon, malgré tout, c'est vrai que cette scène-là, encore une fois, elle est très dérangeante, quoi, elle est très choquante. D'autant plus que les objets se mettent à bouger tout seuls dans la chambre. Chris essaie de calmer sa fille, mais le démon est plus fort qu'elle. Et on va dire que le démon a lui aussi eu une très bonne éducation religieuse.
Laisse-moi ! Laisse-moi !
Encore une scène qui devait être très sympa à tourner. Faut quand même saluer la prestation de la petite Linda Blair, là, parce qu'arriver à jouer un personnage comme ça à son âge, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Le rôle à peine traumatisant, tu sais. Le démon projette très violemment Chris au sol, qui s'explose le dos. C'est sur ce plan-là, d'ailleurs, qu'elle s'est fait hyper mal au dos, là, comme on le disait tout à l'heure. Enfin, plus exactement, je crois qu'elle s'est blessée au coccyx. Puis évidemment, le réalisateur, c'est cette prise-là qu'il a gardée pour la mettre dans le film, quoi. C'est sympa, comme ça, Ellen Burstyn, à chaque fois qu'elle reverra le plan, ça lui rappellera des bons souvenirs. Bon, remarque, ça fait des anecdotes à raconter, hein. La commode bouge toute seule, Chris arrive à partir, et là, le diable lui parle directement.
Vous savez ce qu'elle a fait?
Ouvrez la porte!
Votre connasse de fille!
Le cri déchirant, quoi! Bon, après, on sait pas si c'est vraiment elle ou s'ils ont juste enregistré un dérapage d'une bagnole sur un circuit. Hélène Burstyn aussi, hein, fait un travail absolument dingue. Hein. C'est son cri qu'on entend, là, clairement. C'est un cri qui vient du plus profond de ta chair, quoi, qui te glace le sang. Allez, elle rencontre enfin le père Karras et lui demande de venir voir sa fille.
Elle a quel âge ? 12 ans, pourquoi ? Ok, je viens.
Au début, lui, il refuse, mais finalement, il dit oui. Tout simplement parce que c'est toujours comme ça que ça se passe au cinéma depuis 350 ans. C'est une règle pour écrire des bonnes histoires et des bons scénarios. Au début, le personnage doit refuser. Et c'est que après qu'il dit oui, hein, quand on l'a bien prié pendant une heure. Sans déconner, il y a des milliers de films dans lesquels tu vois ça. Sérieux, je vous jure. Si vous leur faisiez dire oui tout de suite, on aurait gagné des siècles d'attente et des années-lumière de pellicule. Allez, le père Karras rencontre enfin Regan. Et avec elle... le diable. Et direct, le diable, il va essayer de déstabiliser Karras en lui parlant de sa mère.
Ta mère est ici avec nous, Karras. Tu veux lui laisser un message ?
Si c'est vrai, tu dois connaître le nom de jeune fille de ma mère.
Comment il a tué ? Elle dit, il est bon, ce Karras, là. Ah, le démon, n'en a pas peur du tout, hein, parce que il a pas la réponse, là. Et tu dis plus rien, toi. Ah là, le Damien Karras, il doit se dire...
Comment je l'ai bien baisé !
Exactement. Bah tiens, pour la peine, prends-toi ça. Bah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est horrible ! Ah, il lui a jamais dans la bouche !
C'est dégueulasse !
Bah un peu, ouais, c'est clair. Hein. Bon, après, ça ressemble pas trop à du vomi. Hein. On dirait plutôt de la purée de petits pois. Hein. Et d'ailleurs, c'était ça. Hein, c'était de la purée de petits pois. Mais bon, c'est quand même dégueulasse. Dis donc, jeune fille, c'est pas des manières, là ? Raph, dis quelque chose ?
Non, jeune demoiselle, ça ne se fait pas !
C'était Raphaël des Tortues Ninja. Oh, de temps en temps, comme ça, il y en a une qui passe nous voir, oui. Et n'oubliez surtout pas que c'est Donatello le meilleur. Karras, il croit toujours pas que Regan est possédée, il pense qu'elle a juste un trouble au cerveau. Et c'est vrai que, quelque part, quand tu la vois comme ça, bah, elle a juste la tronche normale d'un gamin qui s'est un peu chamaillé avec ses frères et sœurs, quoi, c'est tout. Faut pas voir tout de suite le diable partout non plus, hein.
Mais elle est fille unique, hein.
Mais alors ? Elle est peut-être tombée dans la rue toute seule.
Et les meubles qui bougent tout seuls ?
Bah, c'est pareil, ça se trouve, c'est un courant d'air. Un courant d'air qui l'a fait bouger. La fenêtre était ouverte, hein, ce signal, hein. Mais ça, tu vois, on n'y pense pas. C'est des petits trucs qu'il faut voir. Bon, par contre, Karras, il est comme emmerdé parce que Regan, elle était au courant que sa mère venait de mourir. Et ça, il y a personne qui lui a dit, donc ça reste un mystère. Il va donc faire des tests, il faut qu'il voit si elle est capable de faire des choses qu'elle pourrait pas faire normalement. Comme par exemple, parler une autre langue, ou trouver un championnat de foot, n'importe quel championnat, n'importe quel type de championnat, n'importe quel type de coupe que l'OM a gagné. Des trucs qui sont pas possibles normalement, qui arrivent jamais, ou extrêmement rarement. Il retourne la voir, il l'asperge d'eau bénite. Et surtout là, elle se met à parler une langue hyper chelou. Et là, ça commence vraiment à puer sérieusement.
Ah, désolé, mais je me suis pas encore changé ce mois-ci.
Non, mais je parle du film. Karras a enregistré Regan et quand il fait écouter ça à l'ingé son, le type dit que c'est pas une langue étrangère. En fait, elle parle juste notre langue à l'envers.
Donne-nous le temps, gamer.
Et oui, et là, cette fois, c'est sûr, Regan ne peut pas faire ça toute seule. Seul le diable peut proférer de telles obscénités. Il va donc voir son supérieur pour avoir l'accord de procéder à un exorcisme. Et on lui dit qu'il sera aidé par le père Lancaster Merrin, car ce dernier a déjà fait un exorcisme en Afrique qui a duré plusieurs mois. Et c'est quelqu'un avec de l'expérience. Et en plus, on l'a vu au début du film et on l'a plus revu depuis, donc ce serait bien de le revoir un peu, parce que sinon, tout le début, il servait à rien.
Ah oui, mais c'est vrai, mais ça, c'est pas bête.
Ah non, mais réfléchissent, hein, les hommes d'église, hein, faut pas croire. Et il est là, le père Merrin, on lui envoie un message, et le voilà qui arrive directement de nuit dans l'antre du diable. Ah, ce plan de ouf, mais il est magnifique! Tellement cultissime, iconique, légendaire. La composition du cadre, la lumière, le décor, l'ambiance, les gars. Et vous savez ce qui est mieux qu'un plan de ouf? Deux plans de ouf. Regardez le plan suivant quand Chris lui ouvre la porte. Oh là là, mais cette apparition de la silhouette du père Merrin là. Ah, je vous jure, ce plan, il est moins connu que le précédent, mais il est tout aussi efficace. Ça, tu vois, c'est un réalisateur qui s'est filmé, qui s'est éclairé et qui s'est composé un cadre, bordel.
Père Karras, très honoré de faire votre connaissance.
Oh, cri de ouf, quoi. Ça ressemble beaucoup à moi quand je suis sur les chiottes et puis que je suis constipé et que j'essaye de pousser. Merrin donne des indications à Karras. Il lui dit qu'il faut surtout pas écouter le démon qui arrive à mentir pour essayer de les déstabiliser.
C'est un menteur, le démon ment.
C'est marrant, on dirait qu'il se prépare à faire une réunion avec un banquier. Ou non, plutôt un garagiste.
Il mentira car il veut nous égarer.
Ouais, ça c'est un garagiste. Et là, les deux prêtres montent l'escalier. Et encore une fois, tous ces plans, je les trouve géniaux. Ce sont que des gros plans sur les visages silencieux et fermés. Parce que la situation est tellement incroyable, tellement monstrueuse. Il y a une tension de malade. En fait, là, le réalisateur, il transforme un simple escalier en chemin vers l'enfer. On entend les cris du démon derrière la porte et eux doivent l'éliminer. Allez, on entre en piste.
Bonjour, comment ça va ?
Bon, on va y aller étape par étape. On va commencer tranquille, on va essayer de pas l'énerver tout de suite.
Je t'habite au fond de son cul, espèce de minable connard, suceur de queue.
Ah bah trop tard, il est déjà énervé.
Silence !
Et non, c'est pratique le bénite quand même. Et pourtant, c'est de l'eau, je veux dire, ça attaque pas, quoi. Je me demande si ça pourrait pas encore mieux marcher avec un truc qui décape vraiment, quoi. C'est genre un bon cognac. Ou une bonne petite liqueur de poire, tu sais, ou de châtaigne. Un bon truc de fermier qui tue les mauvaises herbes. Genre l'alcool qu'ils boivent dans les bronzés font du ski. Ah bah ça, le truc, t'as même pas besoin de le bénir, tu le balances sur le démon, le truc il prend feu tout de suite. Bon après, faudrait quand même essayer de pas trop abîmer Regan, hein, même si elle est déjà bien amochée. Allez, on se concentre là, y a un texte à réciter, hein, silence, hein. Tout le monde écoute bien, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'elle est pénible, hein, franchement, c'est chiant. On peut pas bosser tranquille avec elle. Mais Mérine, lui, il s'en fout, il bouge pas d'un cil. Ah bah, il a de l'expérience, le papy. Eh, 44 ans, quand même.
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui...
Alors là, c'est une scène qui va être assez longue, hein. Les deux prêtres vont réciter des textes religieux, et c'est le père Mérine qui commence. Alors, c'est Melon et Melèche qui préparent un pot-au-feu. Melon cuit la viande et Melèche le poireau. Ah, ça le fait marrer, ça il aime bien. Ça. Bah, au moins, il a de l'humour, hein, le démon. Ça, c'est toujours un bon point. On peut peut-être l'avoir avec ça. Bon, par contre, il est un peu bipolaire aussi, parce que là, il est capable de s'énerver très vite et surtout de te lâcher des bonnes punchlines. Ça, c'est bon, ça. Ça, ça aurait pu être une phrase à moi, ça. Peut-être que je devrais essayer de me laisser posséder par un démon pour qu'il me donne des idées de répliques. Si des fois vous connaissez un démon, hein, par chez vous, bah écoutez, dites-lui de passer me voir. Bon, donc là, ça prend du temps, hein, beaucoup de temps même, la scène est assez longue. Eh oui, mais écoutez, exorciser quelqu'un, ça se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Et c'est chaud parce que Mérine, il commence déjà à être fatigué, le vieillard. Et comme ça marche pas tout de suite, bah le démon, il se fout un peu de leur gueule. Et il a bien raison.
Te chasse de ce corps!
Mérine s'énerve carrément, et là c'est une vraie bataille entre le démon et les deux prêtres. Ce qui est quand même assez injuste parce que quelque part, bah là ils se sont quand même mis à deux contre un. Et là le démon il se laisse pas faire et il attaque direct la mère de Caras.
Tu as tué ta mère, Caras! Elle est morte toute
Regan,
seule! Tu ne mordras jamais!
Retourne pas au Seigneur!
Salope!
Non, pardon.
Pourquoi tu dis ça?
Non, mais c'est pas ce que tu dis. Comme il est tout seul, le démon qui sont deux contre lui, bah. Peut-être faut un peu l'aider aussi, hein. Et là, le truc de ouf, Regan va se mettre à léviter. Elle s'envole dans les airs. Alors les gars, on a encore franchi un nouveau cap, là. Là, on passe carrément dans le surnaturel. Là, les deux curetons, là, ils commencent à se dire que le démon, il est vraiment capable de faire des trucs de ouf et qu'il est plus fort qu'eux et que, à un moment donné, ça va bien chier dans le ventilo. Ils arrivent quand même à la rattacher au lit et ils vont faire une petite pause. Le temps de fumer une petite clope, boire une petite bière. Bah ouais, parce que dis donc, quand même, avec tout ça, il fait soif, hein. Mérine, il prend son médoc parce que lui, il en peut plus, il veut pas tarder à crever. Eh, mais.
44 ans, hein.
Mais bien sûr, hein. En fait, dans ce film, je sais pas ce qui est le plus réussi entre le maquillage de Linda Blair en démon ou celui de Max von Sydow en vieillard. Bon, écoutez, il faudrait quand même essayer de terminer à un moment donné, hein, parce que là, il commence à se faire tard. Plus, Regan est à l'école demain, elle a même pas fait ses devoirs. Puis surtout, là, les invités arrivent dans 10 minutes. Hein. Et là, le démon va montrer encore une fois qu'il peut être très bon en imitation.
Dis-moi, pourquoi tu me fais ça à moi?
Sérieux, il le fait hyper bien. Hein. Et en plus, il n'y a pas que la mère de Caras qu'il arrive à imiter. Il sait faire plein d'autres gens.
La calotte, c'est moi, Jesus. La cervelle devant moi.
Ok, ouais, pas mal. Ouais. T'as quoi d'autre? Ah yes, il parle carrément japonais, quoi. Et ça, c'est bon, ça.
J'incarne, en fait, l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc, c'est l'énergie du Christ cosmique.
Ah bah oui, bah, alors, ça, forcément, c'était sûr.
Non, tu n'es pas ma mère.
Mais calmez-vous, Caras. Je suis très calme. Et là, Caras est trop affecté par la mort de sa mère. Il prend encore les attaques personnellement. Et il n'est plus en état de continuer l'exorcisme. Il sort donc de la chambre et Mérine va finir tout seul avec la petite.
Titre, non?
Ouais. Je pense pas que ce soit l'ambiance. Hein. Caras reprend ses esprits en bas pendant que l'inspecteur se pointe.
Et oui, parce qu'il a juste une dernière question.
Caras remonte finalement dans la chambre et là, il découvre le père Mérine sans vie. Il essaie de le ranimer, mais c'est trop tard. Il est mort de fatigue ou d'autre chose. On ne le sait pas, on ne le saura jamais, mais une chose est sûre. C'est le démon qui l'a tué.
Tu penses?
Ouais, peut-être, j'en suis sûr. Tu sais, dans ces trucs-là, moi, les côtés analyse du film, ça c'est mon truc, ouais. Et en plus, regardez comment il se marre, ce petit enfoiré, là. Regardez-le, regardez. Ah, salaud, ouais. Et là, pour Caras, c'en est trop. Trop, c'est trop. Alors, il se jette sur le démon et il défonce sa mère.
Tu vas crever, oui.
Et là, il tente le tout pour le tout.
Viens au moi. Dieu,
alors, même si c'est pas du tout ni l'ambiance ni le moment, là on a quand même un très très beau titre. Et là, mes amis, le truc de ouf, Caras relève la tête, il voit sa mère, et ça y est, il est à son tour possédé par le démon. Et pour tuer le démon, il n'a d'autre choix que de se tuer lui-même. Alors il se jette par la fenêtre et dégringole tous les escaliers jusqu'en bas, c'est terrible. Chris et l'inspecteur arrivent, Regan est à nouveau elle-même, et Caras, qui s'est sacrifié, gît en contrebas. Et voilà.
C'est horrible.
C'est complètement fou, c'est extrêmement triste. Et surtout, tout ça, tout ce qui s'est passé, c'est de la faute de Chris.
Bah pourquoi?
Parce que, je sais pas, mais... J'en suis sûr. Pour mon avis, c'est ça. De toute façon, il y a bien un moment donné, il faudra trouver un coupable. Et voilà, c'est terminé. Le démon est parti. Et les McNeil déménagent. Ils ne resteront pas un jour de plus dans la maison du diable. On voit que Regan va mieux, hein, même si elle a toujours des séquelles au visage. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, de passer du temps dans une chambre avec deux prêtres?
Bon, c'est fini, là.
Non, mais c'est bon. Mais j'ai bientôt terminé. Et le film va donc tranquillement se terminer avec une petite scène sans grande importance qui montre que la vie continue. Le prêtre, d'ailleurs, ami du père Carras, retrouve l'inspecteur. Et ils vont tout naturellement s'en jeter une petite en terrasse parce qu'il est déjà 11h et que l'apéro s'attend pas. Et fin. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film L'Exorciste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis un petit peu frotté pour la première fois au genre du cinéma d'horreur, le vrai. Et j'ai beaucoup aimé écrire cette vidéo parce que, bah, tout simplement, j'adore ce film. C'est de mon point de vue une œuvre vraiment incroyable, hein, extrêmement dérangeante et incroyablement bien jouée par tous les comédiens et comédiennes. À commencer, bien sûr, par la petite Linda Blair qui est assez hallucinante. Et presque 50 ans après, L'Exorciste continue de hanter le cinéma. Parce que c'est pas seulement un film qui fait peur. Il a donné à l'horreur une crédibilité, une intensité et un réalisme qu'on n'avait jamais vu jusqu'à là. À sa sortie, il y a des spectateurs qui s'évanouissaient dans les salles. Et d'ailleurs, je pense qu'on va retrouver ce genre de phénomène avec le film Le Mandalorian et Grogu, tellement ça va être nul. Avec L'Exorciste, Hollywood a compris qu'un film d'horreur pouvait devenir un véritable phénomène culturel. Et depuis, bah, tous les films qui ont parlé de possession ont un petit peu marché dans ses pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Merci beaucoup de rester fidèle à la 12 par secte. On lâche rien, on continue. La prochaine vidéo arrive bientôt, on va se refaire un film vraiment cool et pour une fois c'est un film français. Et ensuite en avril, on repart un peu sur l'astro. Allez, je vous laisse, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.